5, 4, 3, 2, 1.
Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu.
Bah, c'est à vous de décider, vous êtes les tauliers.
Oh, man, boys.
Yeah. Montre-moi ce que tu sais faire.
Moi, tous les matins, je casse le vent.
Panorama grandiose.
Aïe, coquine, ça farte.
Que t'as fini?
C'est quoi ton petit nom propre?
Natacha.
Waouh, le sourire bright. J'adore tes deux pavanias.
Enfin, chérie.
Touché au bras gauche, fausse blessure. Je mets un coup de pied dans la crosse et sur un sur de ma chaussure.
93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Hey hey hey, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, c'est le Voodoo Paname, une session bonus spéciale avec Patrick Vidal.
Bonjour,
bonjour. Bonsoir. Patrick, je suis avec Sébastien.
Ouais, quel bonus.
Ouais, super,
c'est
bonus.
C'est un des seuls français qui a joué au festival Mont-de-Marsan.
Ouais,
un des seuls.
77, voilà, un des seuls. On était pas mal quand même.
Hein?
Il y avait les Loos, Electric Calas, on était pas mal quand même.
On va parler un petit peu avec Patrick, on a une bonne demi-heure du coup en marge de l'émission de ce soir. Ça sortira en bonus dans la semaine. Ce soir, on reçoit Seb.
Alors, à 3 dans les WC.
À 3 dans
c'était
les WC,
vraiment ouais. Les pionniers du punk en Picardie. Hein,
Eric,
Picardie.
Justement, bassiste, voilà, et membre fondateur, voilà, du groupe WC3,
voilà,
qui officie voilà, depuis quelques années dans The Fab Mod.
The Fab Mod, voilà, ce que je connais, donc, qui tourne notamment avec les Choupas, que j'embrasse.
Donc, il est plutôt dans, voilà, le revival British punk.
Ouais, il y a un côté, un petit côté mode, il y a un côté, voilà, ouais, retour aussi des héritiers des Kings et avec du punk.
Ouais.
Quoi.
Ouais. On sera en compagnie également d'Olivier Hébert, membre du groupe Les Fils de Joie, qui est un groupe New Wave qui a eu son petit succès également dans la région toulousaine et puis dans les groupes branchés parisiens aussi.
Mais pas mal, ça a pas mal tourné.
À l'époque, ça a pas mal tourné.
C'était, ouais, rare qu'un groupe de province marche, hormis Rennes.
On en parle. Rennes et Lyon.
La place forte.
Et puis on sera en compagnie de Normal Oil.
Oula. Alors là, c'est du lourd, hein, ouais, signature. Autant on met genre qu'ils ont été, je crois, chez BMG, ils étaient chez Neurose. Là, ils sont chez Wind No Pledger, là, qui se fait un petit coucou. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de projets.
Groupe originaire de, ouais, Dijon, qui a toujours, effectivement, dans sa musique, mélangé, ouais, des tas d'influences, l'indus, la cold wave, voilà, le punk, bien sûr, et puis les musiques électroniques. On est en compagnie donc de Patrick Vidal pendant une bonne vingtaine de minutes, DJ recherché sur la planète, musicien. On t'a connu à la fin des années 70, donc Seb l'a dit en intro, chanteur, guitariste du groupe lyonnais Marie et les Garçons.
Exact, premier exact groupe de lycée. 76, le début.
Et le second single, on en parlera un petit peu avec toi tout à l'heure, produit par John Cale du Velvet, oula, Underground, ouais, à l'époque. Mmh. On va y revenir. Au cours des années 80, tu as fait partie d'un autre groupe, Octobre, avec Franck Darcel, ex-Marquis de Sade.
Yes. Ex-fondateur de Marquis. Ouais. Et voilà, il fait partie des, ce que je disais tout à l'heure, les groupes de Rennes qui foisonnait avec beaucoup de talent, post-punk,
Franck,
voilà,
qu'on a reçu, ouais, il y a peu, qui a produit aussi Étienne Dao par la suite. Tu as formé ensuite Discothique, un des, ouais, premiers à avoir fait de la techno en France. Discothique et Soutra avec Thomas Bourdeau.
Ouais, produit par Mirwes, ouais. Encore des liens.
Parmi Wes, donc la moitié. Wes,
c'est le petit producteur qui s'occupe, ouais, d'une petite chanteuse, s'appelle, ah, Madonna.
S'appelle Madonna, qui était là.
C'est juste celui d'avant, en fait.
La moitié de Taxi Girl, bien sûr. Patrick Vidal, donc le DJ, c'est 83-85. Il y a eu plein de résidences, hein, beaucoup de choses. On passerait une heure, je pense, à parler de tout ce que, ouais, tu as fait. Mais on peut citer les bains-douches et puis surtout la création des toutes premières after-parties à Paris.
L'escalier en dessous là, du palace,
Kit Kat, ouais,
le petit truc dérobé,
ouais,
là, c'est le privilège.
Les Kit Kat du privilège,
ouais, ouais,
le palace.
C'était un vrai privilège pour rentrer. Hein.
C'était.
D'accord.
Et puis il y a eu le Rex Club, l'Elysée Montmartre. Il y a eu des soirées à Ibiza aussi, à Londres.
Ouais, partout. Ouais.
Partout.
Ouais.
Des soirées privées pour Cartier, Vuitton, Guerlain.
Ouais. Non, j'étais trop tard.
Pas Manchester,
non, j'ai pas été. J'étais quand c'était un peu dead. Complètement.
Et il y a eu aussi de la musique pour des défilés de mode pour Thierry Mugler.
Ouais, pas mal. À cette époque-là, ouais, je faisais plein de choses.
Alors, parmi toutes ces activités,
il, hein,
y a énormément d'activités, une vie voilà, sans vie, Patrick Vidal. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu préfères, que tu affectionnes dans tout ce que tu as pu faire? Donc, le DJ, le musicien, le guitariste, le chanteur?
Oh bah là c'est quand même le chanteur qui chante ses propres chansons. Là j'ai repris avec mon nouveau groupe, donc ça on s'aperçoit qu'il y a un vrai manque. Après j'adore être DJ, c'est une autre discipline. Après le sound design et tout, c'est encore une extension du DJing. C'est une manière de diffuser de la musique, tout ça, c'est une manière de partager de la musique avec les gens. évidemment, celle qu'on fait, celle qu'on crée, c'est la plus importante.
L'aboutissement, c'est vraiment chanter avec ton propre band et
après,
tes morceaux.
Après, je diffuse la musique des autres dans le reste. Donc, c'est un exercice que j'adore, mais ça n'a rien à voir avec le. Déjà, la mise en danger, est-ce que tu peux. Parce que quand tu interprètes tes chansons pendant une heure et demie, ça n'a rien à voir, quoi.
Alors, on l'a dit au commencement, la musique, on l'a dit, c'était au départ Marie et les garçons, ouais. Un groupe donc de copains, de lycée. Ça s'appelait alors, je crois, Femme Fatale, hein,
ouais,
en 1975.
C'est ça. Le premier concert, on s'appelait Femme Fatale.
Femme Fatale.
Et puis, on reprenait que du Velvet, en fait. Donc,
et puis, le festival.
Voilà, le fameux festival de Mont-de-Marsan ouais. dont tout le monde parle, parce que c'était vraiment le premier officiellement de punk.
C'est la seconde édition du festival. Ouais.
1977, voilà. Je crois que c'est Marc Zermati de Skydog Records qui vous invite à jouer, à participer. Plus tard, donc, la rencontre avec John Cale, comment ça s'est passé? C'est Marc Zermati aussi qui est à l'origine?
Non, Zermati était venu nous voir à Lyon avec Manœuvre et c'est lui qui avait trouvé le nom de notre groupe d'ailleurs. Après, on a signé avec Michel Esteban.
Michel Esteban de Z Records, ouais.
Et Michel Esteban habitait avec Lizzie Mercedes Clou, qui elle-même habitait avec Patti Smith et qui connaissait bien Richard Hell. Du coup, comme Patti Smith connaissait bien John Cale, je suis allé le voir en concert dans un club à Paris à l'époque. Et il a dit non, je ne peux pas vous produire maintenant, mais pourquoi pour le second? Donc on lui a envoyé quelques maquettes et il a dit oui.
Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme de 20 ans? Vous n'étiez pas bien vieux à l'époque?
21, ouais.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme qui va aller enregistrer avec le grand John Cale?
Bah, bizarrement, ça nous paraissait normal, mais c'était complètement hallucinant parce qu'en fait, on était fans de Patti Smith et de John Cale. On s'est retrouvés à New York en 3 jours à enregistrer avec lui. On a joué au CBGB deux soirs.
CBGB la même année. Hein.
Et le lendemain, rentré en catastrophe faire la première partie de Patti Smith à Pantin. Donc c'est en 3 jours, si tu veux, enfin en une semaine, c'est un truc.
Ça s'est enchaîné.
Quand tu sors à peine du lycée, ça fait beaucoup. Quoi.
Première partie au CBGB de X-Respect. Paris, vous allez jouer aux côtés de Patti Smith et des Talking Heads
aussi, quand même.
Qu'est-ce qui reste de tout ça, de toute cette époque? Des souvenirs, des images dans la tête?
Bah, c'est fondateur, de toute façon. Les fondateurs, c'est Bowie et Lou Reed pour moi, pour l'envie de faire de la musique. Et après, c'est vrai que ça a été très vite pour nous, donc on a gardé une espèce de fraîcheur. C'est un groupe fulgurant dans le sens où on a existé que 3 ans et on a fait énormément de choses. Surtout, on a côtoyé tous les gens qu'on aimait, quoi. Les Talking Heads sont devenus des amis, enfin, ça a été vite, tu vois.
Donc David Byrne. La majorité des titres, il faut le rappeler, étaient composés par toi à l'époque et par Eric Fitoussi, à la guitare. Donc une grande tournée en 1979, concert au Palace, qui était donc le club, on peut dire, branché de l'époque.
Le club avec les bains, quoi. Il y avait des concerts, les bains aussi, il y avait pas mal de concerts, il y a Joy Division.
C'était un peu The Place to Be à l'époque.
Le Palace. Enfin, les deux, hein. En fait, on alternait les deux, on allait au bain, dans le Palace, on venait au bain et on partait au Palace.
Le Rose Bonbon, c'est un petit peu après.
C'est d'ailleurs là où j'ai vu John Cale, ça s'appelait pas le Rose Bonbon, ça s'appelait Nashville. Mm-hmm. C'est le même lieu en fait. Mais c'était
dans le sous-sol de l'Olympia.
Voilà, c'est ça, exactement.
Donc le Palace, célèbre club parisien de l'époque, situé au 8 rue du Faubourg Montmartre. L'album que vous sortez donc la même année se classe même au Billboard. C'était un EP ou c'était vraiment un LP?
Non, c'est un album.
C'est un album. Donc au Billboard, l'équivalent du top 50 français. Mais en 1980, voilà, le groupe se sépare. C'est quoi? Il y a des distorsions dans le groupe?
Il y a beaucoup de problèmes avec la tournure disco de l'album qui était engagée par tout le monde. Et puis je me suis retrouvé à être le seul à le défendre avec. Il faut dire que l'album est sorti de manière tronquée, c'est-à-dire qu'on devait faire une deuxième partie dans l'album qui est sorti en 80, c'est chez Louis, qui sont des morceaux très minimalistes, très bizarres. Et en fait, notre idée, c'était de séparer, comme le noir et le blanc, la disco parfaitement produite et les morceaux complètement barrés. Et en fait, sauf que Phonogram n'a pas voulu sortir.
En fait, la maison de disques a voulu mettre l'accent sur le disco pour pouvoir faire quelque chose de plus au niveau du marketing.
Bien sûr. C'était aussi
direct.
La première fois qu'on signait, on était chez Phonogram, on était plus chez Z Records.
Donc c'est le major en fait qui a géré ça et du coup ça a mis un peu
distorsions. Et on a tout essayé, on a essayé de joindre un 45 tours dedans, un maxi, ils ne voulaient pas parce qu'ils ont dit bon, disco, les millions de dollars vont arriver, c'est bon, on y va quoi.
Et là en 2016, est-ce que tu te souviens un petit peu, donc on a parlé à l'instant de ce festival à Mont-de-Marsan, vous aviez joué quand même aussi aux côtés des Jam, Clash, il y avait Police.
Les Clash, les Dames. Police, c'est anecdotique.
Il y a des photos, des vidéos, non? Est-ce que tu as gardé des souvenirs précis
des
rencontres?
Ouais. Oui, j'ai eu beaucoup de rencontres dans les loges, dans les chambres d'hôtel, on était dans la même chambre avec les Jam, enfin c'est assez bizarre quand t'achètes les 45 tours de tout le monde et tout le monde. Mais c'était une ambiance. Dans le pub de l'hôtel, c'était assez amusant parce que tout le monde était là, il y avait le feel good, enfin c'était vraiment.
Vous avez gardé des contacts?
Non, pas du tout. Mais c'était très amical, il n'y avait pas de tension anglais-français, c'est complètement.
Ça paraît hallucinant aujourd'hui de dire qu'on avait accès, enfin vous étiez un jeune groupe comme ça, comme disait Clément, un petit label, et tu as accès aux plus grandes stars mondiales, il y a une connivence, il y a un respect de la musique française, de la spécificité de la French pop. aujourd'hui c'est impossible. Je veux dire, et comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y avait qui fait qu'aujourd'hui on est un peu sclérosé? Si on n'est pas voilà dans la bonne avec les bonnes personnes, on peut pas accéder à ça. Aujourd'hui, à l'époque, tu pouvais monter en un clin d'œil.
Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez
les disquaires
en fait,
c'est les disquaires, c'est très important. Nous, on a des tournées qui étaient pleines avec un 45 tours. Quoi. Il y avait 200 personnes. Ce qui est pas beaucoup, mais c'est beaucoup avec un 45 tours. Il y a bien évidemment pas Internet. Il y avait un disquaire indépendant dans chaque ville et il organisait une soirée. Et il y avait 200 personnes qui venaient.
Et puis des gens, des producteurs qui ont cru en vous. Michel Esteban a eu un rôle vraiment prépondérant.
Puis les premières parties, comme il y avait le mouvement punk qui était déjà bien installé, ça permettait à des gens sans technique comme nous, qui commençaient à jouer, de pouvoir faire une première partie de groupe. Ce qui était impensable pour les groupes des années 70, si tu veux, qui nous détestaient franchement parce qu'ils avaient été sur scène pendant des mois et des mois, ils ont appris tout ça. Et nous, on arrivait, on faisait un disque direct.
Donc, vous, quand vous êtes arrivé, c'était aussi un petit peu pour faire un peu table rase de ce qu'il y a eu avant, du coup, de la génération des aînés.
Oui, bien sûr.
Du coup, vous voulez casser un petit peu aussi les années 70.
Pas de Bowie, pas de Lou Reed, mais tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait entre nous, Genesis, tout ça, en fait, toutes ces horreurs, quoi. Et après, ça a continué.
Yes,
on s'en débarrasse.
Yes aussi. Il y a quelques groupes comme ça qui sont.
Je crois que c'est Iggy Pop qui a demandé un.
J'ai trop tout aussi. Il y a des qui sont.
Pourquoi ils se droguaient, ils disaient c'était Eagles.
Ah, Eagles, c'est pas le pire.
On va dire c'est les plages instrumentales assez longues, des morceaux de 10-15 minutes parfois interminables.
Oui, c'est le prog rock, quoi. C'est le prog rock anglais qui était devenu une épouvante, quoi.
Du coup, considérez-vous à l'époque comme les enfants du punk?
Non, on était dans le mouvement parce qu'on a aimé les Pistols comme tout le monde, parce que c'était tellement frais, c'était la manière encore une fois d'être sur scène tous ensemble, quoi. Et après on était plus proche du punk new-yorkais entre guillemets, qui était pas vraiment du punk avec télévision et tout ça. On
donc l'after punk.
Pas l'after punk, c'est 76 déjà. 76, non, c'est 76. Mais c'est un feeling différent, un feeling plus arty avec beaucoup plus de textes.
D'ailleurs, c'est pas que sur la musique, comme disait Olivier, on en parlera plus tard, mais il disait qu'il y avait aussi l'attitude, parce qu'eux, ils sont pas punk, ils étaient pas punk avec les fils de joie, mais il disait le fait de se couper les cheveux par rapport aux guitaristes avec des longs cheveux, d'avoir une autre attitude, ils étaient différents.
Il y avait un petit peu côté, avec ce qu'il y a eu avant, notamment la génération Flower Power, etc., les hippies.
Notre bassiste ne voulait pas se couper les cheveux parce qu'il ne voulait pas draguer de gonzesse, donc on l'a viré du coup.
C'est fort quand même de dire. Aujourd'hui, tu as viré ton bassiste parce qu'il avait les cheveux longs, c'est fort.
Il paraît qu'Olivier, d'ailleurs, on leur a couru après Toulouse parce qu'il s'était coupé les cheveux, et donc grâce à Michel Esteban donc de The Records, vous allez enregistrer donc votre second 45 tours à l'époque à New York, donc avec John Cale du Velvet Underground, et puis bon le CBGB aussi, ça c'est incroyable,
c'est mal,
c'est et donc le virage résolument disco, est-ce que c'est toi aussi qui a insufflé un peu ça ou c'est vraiment la maison disque?
C'est tout le monde, on écoutait les deux en fait, en fait les Anglais faisaient ça beaucoup, il n'y a que les Français qui ont mis une espèce de truc sur la disco complètement stupide. Même Johnny Rotten dans son bouquin dit bien sûr qu'on écoutait du funk et de la disco, les clashs. J'écoutais ça,
la scène new-yorkaise est remplie de ça.
Bien sûr.
Même les Talking Heads, ils intégraient.
Bien sûr.
James Chance, ça, il y a
des
jazz, ils
ont beaucoup écouté Bohannon avec les guitares. Voilà. David Byrne l'avait dit. Mes guitares, c'est du Bohannon, tu vois. Non, on l'a intégré petit à petit. On a commencé à radicaliser les grosses caisses. Les grosses caisses continuent. Surtout, on voulait vraiment toujours se démarcher du rock. On voulait pas rester dans un créneau rock'n'roll.
D'accord.
On voulait casser les clichés. Donc, on s'habillait jamais avec des perfectos. On mettait des choses très simples. On bougeait pas sur scène. On faisait beaucoup de bruit, mais on bougeait pas. On était peut-être les plus bruyants, je pense, en fait. Mais on avait une attitude comme ça d'enfant sage. Donc, ça passait
donc
très mal.
Le groupe se rebaptise alors Garçon. Pareil, c'est la maison de disque.
Ou... Non, parce que Marie était partie. Donc
Marie était partie,
C'était pas très élégant d'appeler ça divorce, mais c'était dans le concept, quoi. C'était...
Donc, Marie et les garçons, ça devient Garçon à ce moment-là. Ouais. Donc, pour certains observateurs à l'époque, les gens trouvent effectivement que c'est une étrange et surprenante orientation disco du coup sur le projet.
Mais c'est très rapide parce qu'on a fait Rebop avec John Cale en mars 78 et on a enregistré l'album disco en décembre 78.
Décembre.
Donc pour les gens c'est extrêmement rapide, mais personne n'a reproché à Blondie d'avoir fait Hourglass, donc tu vois bien, tu vois.
Du coup pas de regret sur la tournée parce que vous avez fait une grosse tournée, je crois qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont joué avec vous.
On était 12, et puis on a un peu disparu avec nous. C'est les musiciens américains qu'on avait.
Il
n'y
a pas eu un succès commercial, c'est ça que je veux dire. Il y a eu
en France non, en étranger oui, mais en France non.
Est-ce que c'est pas à cause justement de la culture, parce qu'aux États-Unis à New York il y avait dans les block parties au Bronx, tout ça, il y avait un mélange justement avec les afros, avec les rockers, et ils se mélangeaient.
Ah oui,
il y avait les punks en Angleterre
l'arrivée
qui écoutaient
du
dub, qui écoutaient du reggae, ce qui fait ce mélange. Et en France, il n'y avait pas ça. C'est ce qui fait qu'ils n'acceptaient pas, comme tu dis, qu'il y avait une cloison. On disait non, le disco, la funk, ça n'allait pas. Alors qu'au New York, c'est naturel que quelqu'un, en Blondie, il y a pas mal de rappeurs qui la respectent parce qu'elle a apporté.
Mais en tout cas, ça reste très bon. Vous pouvez regarder la pochette du disque avec le formidable survêtement, c'est ça.
Castelbajac nous avait fait ça.
Super cover en tout cas.
C'était un tissu inédit à l'époque, c'était un photoluminescent. Donc quand t'as les lumières, ça projetait toute la lumière sur les autres. Donc c'était assez fascinant le truc.
Donc c'était avec Eric Fitoussi.
Et Jean-Pierre Chariot à la base. Et puis plein de musiciens. Et en même temps, on faisait l'album de Lizzie Mercier des Clous dans les mêmes studios. Il y avait James White aussi, il y avait Instant Funk, il y avait. Il y avait DNA aussi, on était tous ensemble en fait. C'était,
est-ce que vous mettiez des mots sur cette scène, sur ce mouvement qui était, qu'on appelle après le recul post-punk new wave,
mais la no wave en fait, on appelait pas ça no wave à l'époque, hein, ça, on était dedans quoi.
Ouais,
mais,
comme c'est Suicide, après, voilà.
Oui, et puis DNA surtout, et James White évidemment, puis plein d'autres trucs, il y avait Mars aussi, qui est un groupe fabuleux. Mais c'est tous des groupes très brutistes en fait, mais nous on n'a pas pu intégrer ça parce qu'effectivement on voulait. Mais bon, problème de la maison disque française.
C'est une scène, même si elles n'ont pas tous vendu, elle est fondatrice parce que riche, même dans le mouvement hip-hop aujourd'hui, on parle de Suicide Boy, je fais des références à un nouveau mouvement dans le rap qui prend cette essence de, de la new wave, qui mélange avec un peu de.
Un peu de synthé, un peu de psyché également.
Mais ça a été vite, hein, c'est-à-dire 76, t'as le pub rock, en 77, t'as le punk, et en 82, c'est déjà la fin, et entre-temps, il y a eu. La création de la musique électronique dansante avec Sylvester et Dana Summer, t'as eu la disco, t'as eu le punk, le post-punk, la no-wave, c'est colossal en 5 ans. Il s'est passé énormément de choses. Donc après, effectivement, il faut digérer tout ça, il faut repartir sur d'autres trucs. Mais cette époque-là a été une richesse infinie. Quoi.
Donc après Garçon, il y a donc Octobre avec Franck Darcel, on t'entend sur l'album, unique album du projet Octobre, donc Paulino Park, qui sort en 83.
Ouais,
qu'est-ce qu'il fait après que le groupe... pareil, ce scinde, Franck Darcel.
En fait, c'était une aventure. On n'était pas trop soutenu par la maison de disques, parce que Esteban avait quand même beaucoup de problèmes avec tout le monde, donc on s'est un peu clashé par EMI. Et puis aussi, c'était une époque encore. Moi, j'étais pas habitué des majors, et j'ai jamais aimé ça. Et on était dans une espèce de moule, moi qui me plaisait pas. On faisait des FR3, on faisait des galas avec partenaires particuliers et tout. Moi, je refusais de monter sur scène. Enfin, moi, c'est une époque que j'ai très mal vécu, parce qu'on était dans un truc de variété. Rock avec plein de groupes pop. Moi je supportais pas ça, donc on n'a pas joué le jeu en fait.
D'accord.
On a fait la première partie de Bowie à Auteuil, ça c'est sûr.
Ça c'est votre grand fait d'armes ?
Non, c'est pas un fait d'armes, c'est une première partie quoi. On était managé par KCP à l'époque, donc moi qui suis grand fan de Bowie, j'étais content, mais c'est pas la période que je préfère. Donc
vous étiez étiqueté, vous étiez étiqueté un petit peu variété avec le projet Octobre.
Non, on n'était pas étiqueté variété, mais on était englué dans ce truc.
Des scènes, un peu l'image de Mark Seberg aussi, qui avait ce côté un peu chanson.
Tu voulais faire de la télé, si tu veux. La maison de disques ne te soutient que si tu acceptes tout.
Et d'ailleurs, on s'est souvent posé la question, était-ce du direct, parce que c'était aussi les premiers playback en télévision.
J'ai insisté pour chanter moi en direct, mais c'était très dur. C'est très très dur parce que le son était dégueulasse. C'était les mecs de la SFP qui s'en foutaient complètement.
Parce qu'on voit un live de Mark Itzhak, je crois, chez Guy Lux, c'était du playback.
Non, tu pouvais pas, c'était un risque parce que les mecs c'était des papis SFP.
Les premiers punks aussi.
T'avais pas de retour. C'est très dur, très dur.
Mais ce que tu décris, c'était courant. Nous, on a quelqu'un qui a peut-être venu ce soir, Phil, qui était dans Charles de Gaulle. Il s'est retrouvé à faire des claviers pour Jean-Pierre Madère. Il faisait la première partie de Dépêche Mode. Enfin, on passait comme ça de la variété au post-punk.
Moi, j'ai pas pu.
C'est un peu bizarre.
J'ai absolument pas pu.
Donc ça allait très vite, on l'a dit. La deuxième partie aussi peut-être des années 80, c'est scindé, il y a eu aussi beaucoup de variétés empruntées
avec
à la new wave
aussi, avec la musique assistée par informatique, qui a fait qu'il y a pas mal de choses qui sont rentrées, parce que on oublie de le dire, mais à la fin 70 on avait un son, il y avait des nouveautés, la technologie, mais c'était
joué, synthés, c'était analogique,
joué, c'était joué, alors que deuxième partie des années 80 c'était plus
et les balbutiements avec effectivement
et après Octobre. Donc qu'est-ce qui fait que tu retrouves Franck Darcel 4 ans plus tard en 87 au sein de Senso, une amitié?
En fait, on a continué à faire des démos, si tu veux. Moi j'allais tout le temps à Rennes et puis on a fait des maquettes qui n'ont pas abouti, qui sont allés à Obispo parce qu'il est venu faire le bassiste, je crois.
Donc chez Senso.
Il a chanté un petit peu. Et moi, je fais Senso à Paris, quoi.
Donc à 45 tours en 87, L'Océan, un très beau titre.
J'aime beaucoup d'ailleurs.
Avec une grosse
production d'un mec qui produit des rythmiques.
Très mélodieux, en tout cas. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on retrouve chez Octobre, un sens
de
mélodie.
Aussi,
et puis un album solo, le premier en 90, Histoire Neurose, d'aventure chez New Rose. On recevra peut-être Patrick Maté la semaine prochaine, on espère. mais on lance le message. Et puis parallèlement, sous le nom de Discoti 80, en 89, c'est un petit peu avant, le premier disque techno en France.
Ouais,
et
sorti. Ouais. Peut-être pas fait, mais sorti en France.
Sorti en France. D'où vient cet engouement pour les musiques électroniques, là où c'est plus surtout
c'était la techno. Une ouverture immédiate pour moi d'un grand espace de liberté. Quoi. Moi, j'ai toujours été, je suis curieux de nature, donc la musique, ça s'ouvre tout le temps pour moi. C'est des portes qui s'ouvrent en permanence. Et la techno, ça a cassé encore une fois les codes du rock'n'roll. Et ce rock'n'roll affadi de cette époque-là. Ouais. Et du coup, moi, j'étais pas dans le truc dark et tout ça, dans le truc très cool. Donc, j'ai toujours plutôt été dans le funk et tout. Donc, après, je suis reparti dans un truc toujours avec les clubs.
Il y a pas un
cheminement
justement du punk, la new wave et électro, parce qu'il y a un courant comme ça.
On vient pas des mêmes endroits, c'est-à-dire que les gens qui ont aimé vraiment la new wave sont partis vers la techno pure et dure. Moi qui aimais la disco, je suis plus allé vers les trucs vocaux new-yorkais, house, tu vois.
Et comment t'as pris la gifle de la techno justement, un concert, comment tu découvres le mouvement?
C'est 86, donc c'est en club, c'est le premier maxi de Chicago de Farley Jack Master
en France, avec Daryl
à Paris au 7, un copain qui passait ça et c'était
la révélation.
Pas une révélation, mais en fait le retour de la musique uniquement créée pour le club.
D'accord.
Il y a eu pendant toutes les années 80 plein de musiques qu'on passait dans les clubs, mais qui les passait. Il y avait des remixes, il y avait des edits, il y avait, je passais évidemment beaucoup Prince pour au bain douche quand j'étais résident. Il y avait la Energy que j'aimais pas. Et la house m'a paru le nouveau format, comme elle était la disco, d'une musique créée pour un endroit particulier, qui est en l'occurrence un club. Et ça a été une révélation totale parce que c'est reparti. Et en plus, ça venait de Chicago, c'était un truc très pur, quoi. Tu vois, c'était pas un truc trafiqué.
C'est au cours des afters, du Kick-Kat, enfin, les soirées after, que t'as expérimenté.
Je commençais à en passer pas mal, ouais.
D'accord.
Oui.
On t'a laissé expérimenter.
Oui. Ils voulaient pas qu'on passe de house music. D'accord. Ils étaient très diabolisés à l'époque, c'était pas de la musique d'abord. Donc, il faut remettre un peu dans son contexte. C'est un peu bizarre l'histoire avec c'est pas de la musique. C'est de l'électronique, c'est mal foutu. Enfin bon. Mais après, tout s'est aplani et tout le monde a commencé à. La scène s'est construite petit à petit comme ça. Mais on faisait pas de set house, on intégrait des morceaux house, évidemment. Dans un set funk ou tu vois ce que tu veux.
Et donc toi après tu as fait le Red Club, on peut dire que là c'est.
Le Red, j'étais pas résident, non. J'ai fait quelques dates.
Ça reste quand même un des lieux où le plus important en France.
Et puis le Red Club également, le Red Club. C'est quelle année le Red Club pour toi? Il y a eu des soirées aussi ou une résidence?
Non, j'ai pas de résidence.
Pas de résidence, des soirées là-bas, du coup, dans les années 90?
Ouais, plutôt 90, ouais. Avant, ça restait un club avec beaucoup de concerts. Après, le virage a été fait après.
Et aujourd'hui, avec le recul, donc une trentaine d'années après, que t'évoques ces années 70-80, les années du Palace décrites comme folles? Vraiment.
C'est vrai. C'était un espace de liberté absolue dès que t'avais passé la porte. Ce qui n'est plus trop le cas maintenant parce qu'il y a tellement de problèmes pour passer la porte déjà, avec les sécurités de merde qu'il y a partout. Si tu veux, et bon, après, c'est un autre problème. Mais il y avait cette notion, effectivement, d'une difficulté de passer la porte, sauf que c'était pas difficile quand t'étais toujours à Paris, puisque tu rentrais tous les jours. Et après, tu retrouvais des potes et il se passait absolument n'importe quoi. On le retrouve d'ailleurs maintenant au Bergheim à Berlin. T'as des gens à poil, des gens qui troquent, enfin vous avez
l'impression d'avoir été des privilégiés, d'avoir vécu clairement, des choses effectivement qu'on vivra.
Il y avait énormément d'argent, c'est pas pareil, les années 80 il y a beaucoup d'argent, le Palace s'est terminé en déficit absolument colossal parce qu'ils offraient plein de choses à tout le monde, donc tu vois, c'était une très bonne. En plus c'est pas comparable parce qu'il y avait une musique qui n'existait pas, qui était en l'occurrence la disco, donc ils ont créé des clubs géants qui n'existaient pas avant. Il y avait des boîtes, tu vois, comme Origine, et tout d'un coup il y avait ces usines énormes où tu dansais sur une musique qui n'existait pas avant, donc ça c'est réapparu avec les rêves après. On a retrouvé d'autres endroits avec une autre musique qui n'existait pas.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est par exemple observateur du Voodoo Paname, il y a énormément de lieux, la techno, les musiques électroniques passent à foison à Paris, mais qu'est-ce qui fait qu'on retrouve peut-être pas cette ambiance, cet état d'esprit,
les années folles, l'inventivité,
qu'on peut citer la concrète, les nuits fauves récemment.
Le problème, c'est que c'est des niches maintenant, c'est que chacun, moi les soirées que je fais c'est pareil, on a chacun notre clientèle, en jouant 1500 personnes ou 1000 ou 500, mais évidemment avant tu ne pouvais que, c'était fédérateur à un point où tu n'allais que là, tu allais au Palace et tout le monde était là.
D'accord.
Après, c'était ça. Il y a une musique fédératrice qui c'est, encore une fois, c'était le cas avec la house au début. Ça a été très fédérateur en 90. Tout le monde sortait en même temps. Maintenant, ça c'est des niches. C'est les gens qui.
Donc, phénomène de globalisation qui fait que voilà, beaucoup trop de clubs. On est.
Chacun va avoir la musique qu'il veut.
Si perdu dans la masse.
Si t'aimes l'électro dark, tu vas là. Si t'aimes les trucs vocaux, tu vas là. Si tu veux un truc un peu post-punk, tu vois, c'est ça.
Peut-être qu'à l'époque, il y avait quoi, 3 clubs peut-être vraiment.
Il y avait quelques gros clubs. Et puis encore, il y a une musique qui était au-dessus et qui fédérait tout le monde.
Aujourd'hui, c'est comme le streaming. On va chercher le petit truc sur internet.
Ce qui n'est pas négatif pour autant.
On va plus chez le disquaire avec tout le monde qui essaie.
Chaque soirée existe et il y a plein de concerts. La scène, elle est super vivante.
On parlait du Palace, de la fin des années 70, lieu mythique, très très lié à la musique pop et je crois aussi à la culture gay, la fin des années 70, je crois.
Oui, il y avait des T-Dance le dimanche, mais il n'y avait pas justement le Palace, c'est une boîte mélangée, quoi.
Alors je cite un spécialiste critique de l'époque qui avait dit: le Palace incarne aussi l'utopie d'une vaste fête démocratique où riches et pauvres se fondent dans l'ivresse de la nuit. Il y avait un peu ça?
Oui, c'était voulu par Fabrice Aimer, le directeur, qui laissait rentrer effectivement des punks, où il y avait, tu voyais, il y avait Warhol, Marilyn Manson, Mick Jagger, mais il n'y avait pas de VIP. Ça n'existait pas, ce truc de la con, là, avec, tu vois, non, tu peux pas rentrer. Tout le monde était assis en même temps, quoi. Et il voulait vraiment ce truc-là. Après, il ne faut pas s'illuser non plus, c'était pas non plus... Tu vois, quand tu dis Jack Lang, on se retrouvait avec Roland Barthes pour parler, c'est du pipeau, ils se retrouvaient pour draguer des mecs.
Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Patrick? On parle au DJ aujourd'hui, qui a mixé dans énormément, énormément de lieux. Qu'est-ce qui a changé dans la nuit parisienne, notamment?
C'est ce qui a changé, c'est justement ce fait de ne plus avoir d'endroit déjà ouvert tous les jours où tu as un DJ résident. parce que tu pouvais y aller tous les jours, effectivement, du lundi au dimanche. Et donc là, ça crée une scène, si tu veux, avec des gens qui sont là, qui sont fidèles, qui... il y a des concerts, plein de choses. Du coup, maintenant, il faut choisir une fois par semaine, une fois par mois, l'endroit où tu vas. Ça existe depuis les années 90, tu vois. Donc ça, c'est, finalement, ça scinde beaucoup de choses. Tu vois, tu peux pas avoir une unité totale. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de, d'entrepreneurs visionnaires, si tu veux. C'est des limonadiers maintenant qui tiennent les salles. Donc, c'est les promoteurs qui. C'est, en fait, nous, quand on organise la on supplée à ça. Mais il n'y a pas un visionnaire qui dit bon, j'ai un sens de la fête immense et je vais vous accueillir chez moi. Maintenant, c'est juste on fait du fric. Heureusement, il y a une scène depuis 5 ans qui est revenue à Paris. Il y a des endroits, il y a le zigzag, il y a plein d'endroits maintenant. Il y a
donc on peut citer le zigzag, il y a le yo-yo. Il y a quelques années, il y avait savoir-faire, il y avait prix social, le badaboom, Wanderlust également, Nuba.
Donc en fait, moins d'utopie et plus de pragmatisme maintenant dans la fête. Et du coup, voilà. C'est lié au fait que à l'époque, c'est pas les mêmes personnes qui géraient ça. C'est des gens qui étaient amoureux de la musique, amoureux de la fête. Alors que là, c'est que des gens qui pourraient faire un autre business.
Oui, il y en a quelques-uns qui sont quand même
dans le business. On parle aussi du pur divertissement aussi.
Oui.
Après, il faut avoir les moyens de perdre de l'argent. Si tu veux.
Oui, c'est ça.
Les clubs à l'époque, c'était à perte. Hein. Maintenant, tu peux pas te permettre ça. T'as, il faut donner des chiffres. En fait, tu vois, c'est pas.
Est-ce qu'il y a un club aujourd'hui ou une salle, une boîte de nuit qui représente la branchitude actuelle pour toi, un endroit qui fédère plus que
les
autres?
Une boîte, non. C'est des soirées différentes. Il y a pas une boîte. Je encore une fois, tu peux pas aller dans un club disant j'y vais ce soir, par exemple, et j'y retourne vendredi. Non, ça n'existe pas. Tu peux pas. Il y a pas ça. Les clubs du 8e, on ne parle pas. C'est l'horreur absolue. C'est la régression la plus totale, retournée à l'origine d'avance. Tu veux. Merci les Guetta pour avoir réinstallé ça, c'est sympa. Et après, t'as tout le reste, heureusement, les gens se démerdent.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles, toutes nouvelles fraîches arrivées, là, le salaud qui remplace Social Club.
Le Social Club, ouais,
Nouveau
Social Club.
Il y a l'ennemi fauve à place du Wanderlust.
Le salaud, j'ai un problème avec le nom.
D'accord.
Donc, j'y mets
pas
les pieds.
Je sais tout ça. Oui.
J'ai refusé un booking, donc je suis pas d'accord. Je comprends pas qu'on associe une république fasciste à un nom de club. Donc, ça n'est pas qu'un film. Donc, tout le monde y va, tant mieux pour eux. Moi, j'ai refusé. Booking, non, et j'irai même pas. Tant mieux que ça. Moi, j'ai adoré le Social Club. Apparemment, le club est bien, mais encore une fois, je témoignerai pas parce que je veux pas y aller.
Donc, et le 30 novembre, on recevra Solo Dico, Solo Manda Assassin, qui a aussi joué quelques fois au Social Club.
J'en avais 16 ans, donc on se connaissait super longtemps.
Breaker aussi, ses heures perdues. Et donc aussi intéressé par le mouvement hip-hop, notamment dans les années 80, Patrick.
Au début, oui, bien sûr. Avec, on avait fait Nirvana, Bata, DST, Houdini au Bain-Douche. Il y avait des concerts. C'est vraiment le début de ce son-là, en fait. Et justement, Solo venait avec toute la clique pour écouter, parce qu'on passait beaucoup de ça. Quoi. C'était en 82, 83, donc c'était pile poil, tu vois.
Et puis aussi, l'époque. On parlait récemment de la reprise des Bains-Douches qui est devenue
aussi un
club.
On a des amis qui ont joué
rock
aussi.
Privé.
Oui, il y a récemment. Des concerts, Junior, notamment, qui a joué.
Qu'est-ce qui a fait que ces clubs-là, même le Palace qui est devenu un théâtre, on n'a jamais pu relancer la machine depuis bien longtemps?
Tu peux pas. L'époque a changé, c'est très nostalgique de se dire on va retourner au Palace danser, c'est complètement ridicule, ça ne peut pas avoir quoi que ce soit. Là, ils ont rouvert le Palace Club en bas au privilège, c'est une catastrophe, tu vois. Ils surfent sur des trucs qui n'existeront plus jamais. Et ça, c'est le pire pour aller dans le mur, quoi. Il faut inventer des nouveaux formats, il faut inventer des nouvelles choses, on s'en fout. Moi, je suis allé au Bain-Douche, j'ai mixé deux fois, ça m'intéresse pas.
Il faut pas être trop nostalgique, l'exit Patrick.
Non, mais c'est parce que tu as le nom, tu rentres au Bain-Douche, tu vas voir quoi, tu vas avoir des. Tous les années 80 qui vont te revenir avec le fric, la débauche, non. Ouais. C'est juste maintenant, il y a des bouteilles, un VIP, voilà.
J'ai un retour comme quoi le son, c'est pas ça.
Alors, on va finir là-dessus. Patrick Vidal, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc, c'est l'animation DJing qui t'anime aujourd'hui?
C'est ça, et puis le nouveau groupe que j'ai reformé autour du projet Marie Garçon, là, quand l'album est ressorti chez Gonzaï, qui s'appelle A Boy Called Vidal, où j'ai 4 nouveaux musiciens, et là, on a fait 15 concerts cette année, et là, c'est le truc le plus fun que j'ai pas jamais fait depuis très très longtemps là. Pour le coup, je suis super heureux.
Qu'est-ce qui se passe du coup à ce niveau-là? Une réédition, un nouvel album?
Pour l'instant, on fait des nouveaux titres.
On fait
du live, on a repris tout le répertoire de Marie et les Garçons, une quinzaine de titres à notre sauce, et là on commence à travailler de nouveaux morceaux.
Donc vous rechantez, vous avez réadapté les anciens et du nouveau est prévu.
On est en train de faire de nouveaux titres.
2017 peut-être, un nouveau.
On va essayer de sortir quelque chose, c'est compliqué, il faut trouver le producteur et tout, mais pour l'instant c'est du live, donc c'est un grand bonheur. Absolu.
Très bien. Est-ce que mon cher Seb a quelque chose à rajouter?
Bah non, je voulais dire, qu'est-ce que. Là par exemple, si tu t'imagines, on parlait de scène, on parlait de soirée, avec le band, le nouveau groupe. Quel serait ton plus grand souhait de scène, par exemple, de soirée folle, là, par exemple, avec le groupe? Une soirée avec un acteur, un endroit, il y a quelque chose
Endroit,
qui te rendrait dingue.
Avec les jams ou les clashs au Badaboum
Je sais pas, avec peut-être, ouais, pourquoi pas. Avec,
il a tout fait, Patrick.
Quelques légendes,
fait.
De, quelques légendes fait... de la musique black que j'adore, avec Patti Smith, ouais, qui lit des poèmes dans un coin. Une grande Stéphanie Mills qui viendrait chanter un track.
Il reste des gens quand même avec qui tu rêves de jouer.
Il y a un utopiste pour refaire un lieu et remettre. Voilà,
on mélange toutes les musiques.
Il reste des gens quand même avec qui tu rêves de jouer et avec qui tu n'as pas encore.
Jouer. Avec qui j'aime de jouer.
Ouais, on avait cité Patti Smith, les Talking Heads quand même.
Ah oui, bon, non, maintenant, il y a des noms, il y a beaucoup de gens que j'aime, mais je me pose pas cette question-là, si tu veux, j'avance un peu comme ça.
Donc pas de nostalgie.
Ah, jamais.
Jamais.
Ben, je serais pas là, hein.
Bon.
C'était Patrick c'est Vidal bien. Dans le Voodoo c'est Paname, excellent. On était très très content, ouais, de recevoir parce qu'il est pris, hein, faut le dire, le mercredi soir, tu es DJ résident aussi, ouais, donc tu ne pouvais pas te rendre disponible, ouais, pour notre direct. Ce sera en bonus à retrouver dans le Voodoo Paname dans la semaine. Merci Sébastien de m'avoir accompagné
un plaisir, un
durant, ouais, cette demi-heure. Patrick Vidal, on te retrouve à Paris.
D'accord.
La
merci
prochaine
à vous.
Date alors peut-être c'est.
La prochaine date c'est la Madame Claude ce vendredi la au Madame Théâtre Claude des Étoiles, qui est une soirée justement qui renoue avec l'esprit Studio 54 et Palace et d'une manière très pertinente.
Okay.
Et très bien.
On va merci.
En là, tout cas,
on va sur Facebook alors. Ouais.
Merci
ouais.
Patrick Facebook. Vidal beaucoup.
Merci
beaucoup.
À vous.
Merci. À bientôt. Salut. Ciao.
Mon corps se casse.